RFI.
Radio Foot International. Hugo Moissonnier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Radio Foot de retour exceptionnellement en direct, une nocturne pour revenir sur les matchs amicaux du jour, les derniers avant le verdict des sélectionneurs tant attendu par les prétendants, à savoir la publication des listes de joueurs pour le Mondial 2018. Retour bien évidemment ce soir sur le match de l'équipe de France en Russie, qui sait, peut-être la terre de ses futurs exploits. Elle aura au moins signé une victoire, cette équipe de France, en 2018 sur les terres de Tolstoï et Dostoïevski face au pays hôte du prochain Mondial. Justement, succès 3-1 grâce à Pogba et Mbappé, auteur d'un doublé. Doit-il, Kylian Mbappé, occuper la pointe des Bleus à l'avenir? La question sera posée à nos deux visiteurs du soir, Nabil Djellit, Patrick Juillard. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Hugo,
bonsoir
Hugo,
bonsoir à tous.
Vous étiez déjà là, fidèle au poste à 15h10 temps universel pour la première tournée de Radio Foot. Bien sûr, vous êtes ici chez vous, êtes de retour. Alors, pas de Karine Galli à vos côtés ce soir, c'est dommage, mais un autre consultant de choix, Alejandro Valente. Promis, il arrive d'ici quelques minutes. Pour l'instant, il garde un œil sur ce qui est en train de se passer à Madrid, où l'Argentine affronte en ce moment l'Espagne. Je ne vous en dis pas plus, mais à mon avis, il sera un petit peu contrarié, notre réfé national. Mais... il voit l'Albicéleste rendre en ce moment un hommage involontaire au Brésil de 2014. Et justement, à ce titre, on parlera du Brésil qui a fait un joli cadeau à ses supporters tout à l'heure. C'est toujours ça de prix, une victoire en Allemagne. On parlera également des performances de nos mondialistes africains. Ceux qui étaient sur la pelouse ce mardi, 5 équipes, elles étaient là, elles ont connu des fortunes diverses. Radio Foot, le temps pour moi quand même de dire merci aux couche-tard, Steven Hensley et Pierre-Olivier Guérin, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Radio Foot, c'est parti. Mais tout de suite, retour sur le match de l'équipe de France, la victoire en Russie, 3-1. Et pour en parler, qui mieux que notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg, Olivier Pron. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir.
Les deux là, Ekel et Jekyll, vous les avez amenés à la cantoche entre les deux émissions, ils ont dû se régaler. C'est pour ça qu'ils sont si en forme.
On s'occupe comme on
peut. Ils ont fui la cantine de RFI.
On s'occupe comme on peut pendant que vous consultez des comptes Instagram, Olivier.
Alors ça, c'est une référence.
Je ne consulte
à l'émission
rien.
De tout à l'heure. Allez-y, Olivier.
Je ne consulte rien, j'observe, je suis...
Non, vous vous rincez l'œil.
Il constate, c'est tout. Allez, on va arrêter là les private jokes. On va revenir à nos moutons, notre match de l'équipe de France. Donc sous vos yeux, l'équipe de France s'est imposée face à la Russie. Est-ce que vous voulez rappeler un petit peu ce qui s'est passé ou est-ce que je m'en charge, Olivier?
Non, vous en chargez pour l'instant, j'ai une pensée émue pour le réfé, hein. Faudra le soutenir. Je lui envoie tout ce pack de Kleenex.
Ça va pas
on
être
en parler. Alors, l'équipe de France, donc, qui ouvre la marque grâce à Mbappé, un joli petit exploit personnel. Paul Pogba double la mise sur coup franc. Smolov de la tête réduit l'écart à la 68e. Et puis, à environ 10 minutes de la fin, Kylian Mbappé, autre exploit personnel, qui signe un doublé. Alors, je vais vous demander ce que vous avez pensé de la rencontre, Olivier, dans un instant. Avant, on va écouter Blaise Matuidi. Il a répondu à vos questions après la rencontre. Blaise Matuidi, le milieu de terrain de l'équipe de France, qui analyse donc la rencontre des Bleus.
On avait à cœur de se racheter, ça a été fait, même si tout n'est pas parfait, tout n'a pas été parfait dans ce stage, tout n'a pas été parfait aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a conscience de tout ça, mais dans un match, il faut gagner, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, et voilà, même si parfois dans le jeu, on a démontré des bonnes et des moins bonnes choses, mais à l'arrivée, on gagne, donc c'est important, le plus important, c'est de gagner. J'espère que quand on va se retrouver... après la saison, on aura le temps justement de peaufiner tout ça. D'abord offensivement et aussi défensivement, parfois dans le repli, on a manqué de rigueur. Ça, c'est important. Il faut vraiment faire attention à ça parce que on risque de le payer cash si justement on n'y est pas préparé.
On rappelle simplement que cette victoire en Russie, elle suit une défaite embarrassante à domicile au Stade de France vendredi face à la Colombie 3-2. Olivier Pron, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Blaise Matuidi sur ce match de l'équipe de France face à la Russie?
Moi, j'adore Blaise Matuidi. Je l'adore, et rien que parce qu'il pour ce qu'il fait en zone d'interview après les matchs, il faut le garder et l'encenser. C'est un bonheur, ce garçon. Il a une bonne analyse. Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Ça fait toujours un peu peur quand il dit il va falloir peaufiner à la fin de la saison, juste avant la Coupe du Monde. On aurait aimé que tout ça soit peaufiné avant, parce qu'il reste plus tant de temps que ça. Mais il est lucide. Et puis voilà, pour moi, c'est un bon maillon de ce groupe France. Bien sûr qu'il sera dans la liste des 23, Blaise, où il n'y a aucun problème. Et c'est toujours un plaisir de l'écouter. Il prend le temps, contrairement à d'autres. Et oui, ça me semble assez lucide, cette analyse, même si, encore une fois, voilà, peaufiner, bah, il n'y a plus trop le temps de peaufiner quand même.
Vous êtes d'accord, Patrick Juillard, sur l'analyse collective hein, que livre Blaise Matuidi sur la prestation collective des Bleus.
Ouais, je suis d'accord. La France a globalement, hein, après on peut entrer dans le détail et trouver des divergences, mais globalement la France a rectifié le tir aujourd'hui, à la fois dans l'efficacité, parce que globalement l'efficacité a été présente, on en reparlera après sur Kylian Mbappé en pointe qui a répondu présent, et puis parce que dans l'attitude au moins l'équipe s'est quand même davantage comportée en équipe et a davantage agi collectivement qu'elle ne l'avait fait contre la Colombie au Stade de France dans ce match aux deux visages à la fois très plaisant et à la fois très déplaisant qu'on avait vu vendredi soir. Donc c'est quand même un petit peu mieux. Après, attention, ça n'était que une faible équipe de Russie en face.
Ah oui.
Donc il faut pas non plus trop tirer de conclusions trop dithyrambiques après ce match.
On peut parler des individualités.
Je pense que la...
Oui, Olivier.
Je pense que la Russie pourrait pas jouer la montée en Ligue 1 si elle joue en Ligue 2.
Probablement. Le stade de Reims est sans doute meilleur que la Russie, je vous l'accorde, Olivier.
Vous voulez dire que ça sent le Russie, quoi.
Ça sent le roussi pour la Russie. Ils sont très en forme. Vous êtes tous très sur la même lignée hein. Ce soir. Ouais. Exactement.
Non, surtout Nabil depuis cet après-midi.
On ne faiblit pas. Il était déjà très en forme cet après-midi.
On est allé sur Instagram pendant le repas, c'est pour ça.
La Russie qui, me semble-t-il, est la nation la moins bien classée par la FIFA participant à cette Coupe du Monde 2018. Ce qui est assez ironique. Les individualités, Nabil Djellit, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Est-ce qu'il était installé en pointe cette fois, la pointe de l'attaque de l'équipe de France? Est-ce que c'est son poste? Est-ce que c'est là qu'il sera le plus utile au bleu?
Bah, quoi de neuf? Un neuf, j'ai envie de vous répondre. Effectivement, c'était une des interrogations, notamment de le voir évoluer dans un 4-4-2 à 3. On n'avait pas un sentiment de gâchis parce qu'il partait peut-être d'un peu trop loin. Et donc, du coup, avait besoin de faire des efforts assez importants et défensivement aussi pour faire la différence. Donc on imagine que pour un jeune joueur comme lui, c'était pas le poste préférentiel. Moi, je préfère le voir dans l'axe ou sur le côté gauche pour entrer avec son pied, un peu comme Neymar le fait au Paris Saint-Germain dans un 4-3-3. Maintenant, si vous me demandez mon avis, moi j'aimerais bien voir un 4-2-3-1 avec Mbappé associé à Griezmann. Ou alors un 4-3-3, mais effectivement, même si je crois pas que ça soit un attaquant qui puisse porter totalement une attaque dans un 4-3-3, parce que c'est pas un joueur qui est fini, c'est pas un joueur qui peut totalement faire remonter un bloc par sa conservation de balle ou par son jeu de tête, c'est plus un joueur de mobilité, de différence, de combinaison. Donc pour moi l'avenir c'est Mbappé, je veux dire.
C'est plutôt évident, mais est-ce que c'est l'avenir immédiat, la pointe de l'équipe de France?
Je le pense
que c'est l'attaquant de la France à la Coupe du Monde.
Je le pense parce que sinon il met pas Mbappé titulaire sur le deuxième match. Il avait quand même il a fait venir un garçon comme Ben Yedder qu'il aurait pu tout simplement tester. Il aurait pu tester Ben Yedder avec Giroud. Il aurait pu tester d'autres choses. Mais celui qui a été choisi, c'est quand même Mbappé. Et je crois que c'est tout sauf un hasard pour le coup. Et surtout maintenant. Même si ça reste un match amical face à une équipe qu'on peut considérer au niveau international comme moyenne, il a fait des différences assez incroyables. Et son deuxième but, c'est les buts qu'on appelle à 1 million de vues sur YouTube. Neustädter, là, le défenseur d'origine allemande qui joue pour la Russie, il est refait pour la semaine avec ses coéquipiers en club. Hein.
Alors justement, on parle du numéro 9, vous étiez en train de mentionner Wissam Ben Yedder. Olivier, c'est assez surprenant, Ben Yedder appelé pour cette trêve internationale, pour ces deux matchs amicaux, il a longtemps refusé les sollicitations tunisiennes. Ben Yedder, on l'a à peine vu contre la Colombie, et là on l'a pas vu du tout, ça c'est surprenant quand même.
Bah oui, et pourtant il y a eu beaucoup de changements. Je voudrais juste redire un petit mot avant de parler de Ben Yedder. C'était amusant parce qu'on a vous entendrez, et vous l'avez déjà un petit peu entendu, Blaise Matuidi, parler notamment de repli défensif, de faire les efforts et tout ça. Quand on l'a cuisiné tout à l'heure en zone d'interview, bah, il a pointé du doigt qui ? Il a pointé gentiment, hein, mais il a dit, nous les tauliers, faut quand même qu'on parle un peu à Mbappé, parce que c'est quand même là qu'est le problème. Il dit, devant, c'est un phénomène, c'est énorme, mais ce serait bien qu'il vienne filer un coup de main derrière. Donc voilà, c'est le chantier pour Mbappé. C'est bien, tout le monde reconnaît évidemment cette merveille.
Je vous pose la question, Olivier, est-ce que Messi défend avec l'Argentine.
Je termine juste.
Non, mais à un moment, il faut se poser aussi la question.
Messi, nous, on parle de Mbappé.
Non, mais d'accord.
Allez-y,
mais, enfin,
mais nous, allez-y, on se pose des questions sur Olivier. Mbappé, là.
Allez-y, Olivier.
Je développe, si vous le voulez bien, Nabil. Retournez sur Instagram. Et donc, l'ami Mbappé, voilà, on sent bien que... Et c'est pas moi qui le dis, c'est Matuidi. Et Matuidi fait partie un peu des cadres, des tauliers. Et voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit... On est allé le voir dans le vestiaire, on le chambre un peu, mais plus sérieusement, on aimerait bien effectivement qu'il se replie un peu plus, qu'il participe un peu aux tâches défensives. Il n'est pas encore Messi, ça c'est moi qui le dis, ça n'est pas évidemment Matuidi. Voilà. Mais sinon, on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur Français sur le terrain ce soir, évidemment, sans doute. On a le droit aussi d'imaginer qu'il puisse faire l'effort de temps en temps de revenir. Encore une fois, ce sont ses coéquipiers qui se baptisent les tauliers qui le disent.
Bon. Et Ben Yedder, alors, cette déception.
Ben Yedder, on peut pas.
Allez-y,
on peut en dire grand chose, il a pas joué.
Mais,
on peut pas en dire grand chose, Ben Yedder. C'est la déception, il a joué 20 minutes.
Ça a beaucoup énervé autour de ce plateau.
Moi, déjà,
qu'on essaye pas de.
Je ne comprends pas pourquoi Ben Yedder n'a pas joué le premier match. C'est un match à domicile. Il va jouer contre la Colombie où évolue Luis Muriel, qui est son coéquipier de club au FC Séville, contre lequel il est en duel en club et donc face auquel il serait d'autant plus motivé pour montrer ses qualités. Bon, Didier Deschamps n'intègre pas cette donnée psychologique élémentaire et ne le fait pas jouer d'entrée. On revoit Olivier Giroud, on sait ce que Olivier Giroud peut apporter. Ça ne sert à rien de lui le faire rejouer encore un match, vraiment. Et aujourd'hui encore, on a le temps, on mène, on a le match à notre main. Il y a la possibilité largement de lui donner du temps de jeu et Didier Deschamps ne lui donne même pas une minute. Donc ça me pose question. Alors, et je pense pas être le seul. Je vois pas pourquoi Ben Yedder n'a joué qu'en tout et pour tout que même pas 20 minutes sur deux matchs.
Olivier Pron.
Ben vous avez raison, on se l'est tous posé cette question, alors après entre nous on se disait tiens peut-être que Didier Deschamps quand il a vu les Russes revenir à 2-1 il s'est dit bon allez on va peut-être pas revivre le même scénario, je vais faire rentrer mes cadres et on va essayer de serrer tout ça pour marquer le troisième et tenir cette victoire, c'est une hypothèse, voilà, c'est vrai que Ben Yedder, on a vu beaucoup de monde aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements et c'est vrai que sur les deux matchs à part les deux gardiens et je viens de réécouter la conférence qu'a donné Didier Deschamps à l'issue de la rencontre et il le dit clairement, il dit voilà, moi je m'étais fixé comme objectif de voir tout le monde sur ces deux matchs, à part les deux gardiens remplaçants, bon ben ça on sait que de toute façon son choix est fait, il n'a pas besoin de les revoir, j'ai vu tout le monde, maintenant je sais quoi faire, il reste un mois de compétition en club, un mois et demi, et ben voilà, d'ici à la liste, je vais regarder ce qu'ils font en club et voilà, j'ai des enseignements à tirer, je sais quoi faire, à moins que le dernier mois et demi de compétition ne contredise ce que je pense. Pour Ben Yedder, oui, c'est clair, effectivement, c'est un peu surprenant de ne pas l'avoir vu aujourd'hui.
Nabil, est-ce qu'il y a d'autres perdants outre Ben Yedder qui semble quand même mal parti pour intégrer la liste finale de Didier Deschamps? Est-ce qu'il y a des perdants au vu de après cette
Martial.
Rencontre face à la Russie?
Bah, Martial c'est d'accord. Ouais, nonchalant sur le côté, il a pas été efficient. On sait que lui sa place elle est en balance, donc il a pas marqué des points sur ce coup-là. Dembélé n'a pas été non plus exceptionnel, mais à mon avis sur son pédigré, son talent et ses capacités à faire des différences individuellement sur les côtés, je pense que lui il va quand même rester dans la liste. Après, moi je trouvais, même s'il va être de l'aventure notamment, mais il faut qu'il fasse attention, mais il sera de l'aventure quand même, parce qu'on a quand même beaucoup de très bons joueurs dans ce secteur de jeu-là. On peut se passer de gars comme Nzonzi ou Ndombele par exemple. Je crois que Rabiot, Patrick notamment,
ah oui.
Sur la première demi-heure d'ailleurs.
On peut en reparler après, il y a de quoi dire.
Ouais, sur le match d'ailleurs, sur la première demi-heure, c'est une purge, hein, on n'est pas bon, on fait rien de spécial. Hein, c'est les individualités qui nous ont tirés vers le haut, mais bon... Bah, les individualités, à un moment, faut que ça sert aussi. On peut pas toujours parler que de bloc, que de collectif. Bah, quand t'as des talents, le titre de la une de l'équipe, c'était les talents ne suffisent pas. Parfois, ça peut suffire aussi, ou ça peut te permettre de débloquer
contre
des situations.
Cette équipe de Russie-là, ça peut suffire.
Donc, Rabiot, je trouve qu'il a été, je sais pas ce que toi, Olivier, t'en penses, je trouve qu'il a été moyen, j'ai encore été déçu. Voilà, enfin, ceux
pas
qui
bon,
m'ont. Martial
bon.
Et Rabiot.
Ça vaut 4.
Ouais.
Ça vaut 4, Rabiot, ce soir, c'est
il
clair.
Il s'éloigne mais du terrain,
que,
il se rapproche.
Je pense que
du
ça
banc.
Bougera pas beaucoup au milieu du terrain. Je pense que ça bouge, oui, mais il sera dans le groupe. Le milieu de terrain ne bougera pas. En gros, là où ça va bouger, il faut une ou deux places devant et puis un latéral de chaque côté. Est-ce que Lucas Hernandez ou Pavard ont marqué des points ? Ça, j'en sais rien, parce que je pense que ça va dépendre aussi de l'état de santé de leurs concurrents. Et puis finalement, devant aussi, parce que si la Lacazette pouvait jouer et revenir bien, on sait qu'il a a priori la préférence
mais
de Deschamps.
Mais,
mais je pense pas qu'au milieu du terrain, non, ça bouge beaucoup,
Olivier,
même si aujourd'hui, on est d'accord, Rabiot était moins bon.
Je pense qu'une partie des réponses à ces questions dépend de l'idée que Didier Deschamps se fait de Mbappé. C'est-à-dire, est-ce qu'il considère Mbappé comme un avant-centre de rechange, un joueur axial ? Dans ce cas-là, il prendrait deux attaquants axiaux, Giroud et Mbappé.
Totalement.
Ou est-ce qu'il considère Mbappé plutôt comme un joueur de côté ? Et dans ce cas-là, les cartes peuvent être encore un petit peu rebattues en attaque et on est un peu plus en difficulté pour dire qui seront les 5 ou 6 attaquants de l'équipe de France.
Allez, on est très en retard. Un dernier mot,
Olivier. Ça, c'est très clair, la liste est longue.
Pogba, peut-être un match qui va peut-être lui faire du bien et qui va peut-être permettre à son crédit d'augmenter un petit peu auprès du public français et auprès de son sélectionneur.
Oui, je sais pas l'attitude en zone d'interview, en tout cas après.
mais c'est pas nous qui faisons l'équipe, c'est pas vous qui faites l'équipe.
Oui, mais bien sûr. Après, moi, je trouve qu'il y a eu aussi beaucoup de déchets. Évidemment, il y a un très beau coup franc. Il y a une passe. Bon, est-ce qu'elle est décisive ? C'est une dernière passe, en tout cas, pour l'ouverture du score de Mbappé. Je ne sais pas si on peut appeler ça une passe décisive, ouais. Parce que c'est quand même Mbappé qui fait le boulot derrière. Voilà. Oui, c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est bien. Voilà.
Merci beaucoup.
Et puis de toute façon, on sait qui sera là, Pogba.
Merci beaucoup, Olivier Pron, d'avoir veillé pour être avec nous en direct, pour revenir, pour débriefer ce match entre la Russie et la France. Et vous avez encore beaucoup de travail et on va vous entendra demain matin nous raconter un petit peu cette soirée à Saint-Pétersbourg, cette soirée de football. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Olivier.
Bonne fin de soirée à vous.
Merci. Bonne fin de soirée à vous. Bon courage. On va passer aux autres rencontres de la soirée. On va accueillir surtout El Refe, Alejandro Valente. Et la première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment ça va ?
Ça va très bien.
Le moral est toujours bon.
Dit-il en rougissant.
On n'y croit absolument pas. Le résultat de la soirée, le choc de la soirée, c'est la victoire de l'Espagne à Madrid, 6-1 face à l'Argentine. Triplé disco, Diego Costa, Alcantara, Aspas, voilà les buteurs pour la Laura et Otamendi. Et l'unique buteur côté argentin, ce serait trop long de raconter la rencontre. Peut-être essayer de nous en détailler un petit peu la physionomie.
Déjà,
est-ce que ce score fleuve reflète la physionomie du match, Alejandro?
En partie, oui. Disons que il faut quand même préciser que l'Argentine était privée de Messi et ce score et ce résultat vient confirmer par défaut l'importance qu'a aujourd'hui Lionel Messi dans une équipe d'Argentine qui, en dehors de lui, reste une équipe relativement peu performante. On l'avait vu déjà avec les difficultés qu'il avait eues dernièrement dans la phase éliminatoire. À l'absence de Messi, il est venu s'ajouter celle d'Angel Di Maria, qui est quand même un joueur très important également. Il y avait d'autres joueurs comme Agüero blessé, donc il y avait quand même des absences du côté de l'Argentine, mais cela n'explique pas tout. Évidemment, l'Espagne, on connaît son système de jeu, elle a peu à peu pris l'emprise sur le match. L'Argentine a eu des occasions, surtout en première mi-temps, le match n'a pas été équilibré, mais il y a eu à peu près autant d'occasions de part que d'autres. La blessure de Romero, le gardien, est venue ajouter un peu aux difficultés de l'Argentine. Et en deuxième mi-temps, ça a été effectivement un festival d'erreurs défensives. Il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. Beaucoup de joueurs les plus importants ont quitté un peu l'équipe d'Argentine. Et on voit aujourd'hui que l'Argentine reste quand même sans Messi, très loin du très haut niveau.
Bah, on a de quoi être inquiet. Moi, je vous cache pas. Alors effectivement, il y a toutes ces absences. Il y a aussi le contexte autour de la sélection argentine. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi Dybala, Icardi ne sont pas là, mais bon, ils sont, comme le dit Patrick à juste titre, ils sont pas défenseurs. Sur un match comme ça, c'est plus le bloc et la défense qui a failli. Il faudra un Messi du niveau de Maradona 1986 hein, pour aller chercher cette Coupe du Monde. Et attention, parce que je rappelle que dans toute Coupe du Monde, il y a des surprises au premier tour. Je rappelle également que la poule de l'Argentine n'est pas simple, à la différence de la poule de l'équipe de France. Quand vous avez une équipe comme le Nigeria, la Croatie et l'Islande. Il va falloir se battre et élever son niveau de jeu. Clairement, après moi j'ai toujours des doutes sur la défense argentine, je vous le cache pas, certains clients comme Otamendi.
Justement, Nabil, tu disais par rapport à il faudrait que Messi soit le Maradona de 86, mais il faut pas oublier qu'en 86, effectivement Maradona est absolument décisif, omniprésent et exceptionnel dans la conquête du titre,
mais Maradona de 90.
Mais voilà, il y avait quand même derrière des tauliers et une défense très solide en 86. Alejandro va pas me contredire. Et un gardien de but de qualité. Aujourd'hui, j'ai quand même, quand je regarde la défense, quand je regarde le gardien de but, les gardiens de but, il y en a pas qu'un, il y en a un que je connais très bien puisqu'il joue à l'OGC Nice. C'est très moyen tout ça. Bah, c'est très moyen. Et c'est inquiétant quoi d'être à ce point-là déséquilibré. C'est ça m'attriste parce que moi j'aime beaucoup le football argentin en général historiquement, mais là.
Et Patrick, au-delà des considérations tactiques, comment on se relève d'une défaite aussi large?
Que là, la difficulté, ça va être.
Ce n'est qu'un match amical, mais quand même.
Oui, ça va être surtout ça a fragilisé Sampaoli parce que il a fait des choix qui ont été des choix forts, on va dire, en privilégiant la présence de joueurs issus pour beaucoup du championnat d'Argentine. Certains ont été performants aujourd'hui, comme Meza par exemple, d'autres un peu moins, et en laissant un peu de côté des joueurs beaucoup plus connus sur le plan international. Vous évoquiez les cas de Dybala par exemple. Alors, il n'avait pas écarté définitivement, mais le fait qu'il ne soit pas venu à participer à ces deux matchs amicaux est quand même un aveu pas beaucoup d'enthousiasme à son égard.
On dirait que en fait on a le plan A, c'est Lionel Messi qui tire l'équipe vers le haut, et qui on se prive volontairement du plan B qui pourrait être Dybala.
Mais ça c'est la personnalité de Jorge Sampaoli qui veut façonner les équipes à sa façon. Je pense qu'il est arrivé à mauvais timing, il est arrivé un peu trop tard avec cette équipe d'Argentine, sans avoir le temps de faire les réglages et les tests qu'il aurait voulu faire. Et il veut mettre les bouchées doubles, et à mon avis, il s'égare un peu il risque des problèmes. Mais je pense qu'il va finir par corriger un peu le tir et essayer de s'entourer des joueurs beaucoup plus sûrs.
En tout cas, on peut penser que cette défaite, large défaite argentine, elle donnera quelques idées aux Super Eagles du Nigeria qui affronteront l'Argentine en phase de poule.
Mais c'est le troisième match uniquement.
Exactement, c'est le troisième match à Saint-Pétersbourg, là où la France a joué. On va parler maintenant de l'Espagne, qui sera un adversaire d'une autre équipe africaine, à savoir le Maroc. L'Espagne, donc, qui signe un carton. On s'interrogeait tout à l'heure sur les éventuels doutes que pouvait susciter cette équipe nationale.
Moi j'en avais pas.
J'ai eu l'excellente intuition de mettre en doute les qualités d'Isco, qui a donc signé un triplé. Je suis donc un visionnaire.
Je vous avais dit que c'était un futur ballon d'or, potentiellement.
Bon, en tout cas, le fait est que l'Espagne a régalé. Isco a régalé. C'est un message que les autres nations feraient bien d'entendre quand même ceci.
Vous savez qui il me rappelle, Isco, moi ?
Allez-y.
Je vous parlais de futur Ballon d'Or. Dans son jeu, il me rappelle Kaka, le Brésilien.
C'est pas le même gabarit, c'est pas exactement
le
même.
Non, mais c'est un peu le même genre de joueur.
Ouais, moins finisseur.
Avec une qualité de conservation du ballon absolument exceptionnelle, et une vision du jeu, une distribution parfaite, toujours le bon tempo, et en plus, c'est un bon finisseur, comme l'était Kaka, donc je pense que moi j'ai pas de souci pour l'Espagne. Ces jeunes joueurs sont vraiment exceptionnels.
Bon, le message envoyé aux autres nations et particulièrement au Maroc, là il faut l'entendre là quand même.
Mais c'est le troisième match, c'est pareil.
Le Maroc
joue d'abord l'Iran et le Portugal.
J'imagine que l'équipe la plus accessible pour le Maroc, ça reste quand même le Portugal. Le Maroc doit s'offrir une finale sur le troisième match. Maintenant, l'Espagne font pas le même sport que les autres quand ils sont à ce niveau-là. Concrètement, avec le Brésil et l'Allemagne, c'est certainement la meilleure nation au monde.
Au-dessus de l'Allemagne.
Je connais rien au football. Alors, il y a eu le match face à l'Allemagne qui a été fantastique déjà, où ils ont mis l'Allemagne comme
un partout,
rarement en difficulté, notamment sur la première mi-temps. Et puis là, bon, même s'il n'y a pas Messi, même s'il n'y a pas Di Maria, bon, l'Argentine dans le football international, c'est une marque. L'Argentine, elle prend pas 6-1. L'Argentine, elle prend pas 6 buts. Je veux dire, c'est rare. Il faudrait regarder les, faudrait regarder l'historique des matchs de l'équipe d'Argentine. À mon avis, une désillusion comme il y a eu ce soir, c'est très rare. Et puis après, il y a le contenu. Il y a aussi la joie entre tous ces joueurs. Il y a une alchimie. Il y a Ramos, Piqué, l'expérience. Il y a des joueurs intermédiaires comme Isco, mais il y a aussi des prospects absolument fantastiques comme Asensio. Il y a des joueurs qui émergent en Espagne, mais qui ne sont pas connus internationalement, Aspas. Comme Iago Aspas, qui joue au Celta Vigo, qui a marqué deux buts. Il y a un entraîneur qui est qui est Lopetegui, qui est un entraîneur qui a été façonné par l'école espagnole. Donc tout est réuni pour être dans le dernier carré. Après, est-ce qu'ils seront champions du monde ? J'en sais rien. C'est une question de détail.
Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit tout ce qui se passe en Catalogne, enfin politiquement, mais c'est frappant de voir que l'équipe, à moins qu'on nous cache des choses et qu'on ne sache pas tout, mais l'équipe a l'air de rester vraiment unie autour
de... Ça se passe en Catalogne, ça concerne une partie des Catalans.
Mais c'est un cadre de l'équipe d'Espagne, Piqué, Gérard Rui, et tout de même.
Il y a quand même des joueurs... qui n'a jamais pris part, s'est déclaré partisan de l'indépendance.
Mais donc, en tout cas... Non, mais qui n'est pas toujours apprécié sur les autres stades espagnols.
Il a été applaudi aujourd'hui à sa sortie par les stades madrilènes.
Je trouve que, quand même, dans un pays régionaliste comme l'Espagne, le fait que l'équipe arrive à rester vraiment unie comme ça, c'est un signe fort d'une qualité d'entente collective que beaucoup de nations peuvent envier à l'Espagne. Quoi. Après, moi, je suis impressionné par ce que fait Lopetegui.
Et après, ils ont de la puissance aussi, parce que souvent, on a dit que c'était une équipe qui faisait tourner le ballon, qui manquait un peu de verticalité et tout. Elle a des joueurs qui percutent avec des Asensio, mais elle a aussi de la puissance avec Diego Costa, qui a peut-être manqué. Alors, Diego Costa, on connaît son histoire avec la sélection espagnole. Mais ce soir, il marque, hein, Alejandro, si je dis pas de...
Il marque un but, c'est d'ailleurs là que se blessent les gardiens.
Et comment
argentins,
il a été, Diego
Romero.
Costa, ce soir?
Est-ce mais qu'on a sinon, l'impression qu'il fait partie de l'équipe? On l'a pas énormément vu. Non, ouais. C'est toujours un joueur qui
déçoit en sélection.
Mais qui a ses courage que d'autres n'ont pas d'aller, même charbon. À des actions où il risque de se blesser. Et là, il est allé au contact, il a pris des risques en allant marquer ses premiers buts.
Et en plus, je rajoute un truc qui est hyper important, après c'est mon sentiment, pour moi ils ont le meilleur gardien de la planète, c'est Derrea.
David Derrea, pour moi, c'est le portier Manchester United.
Sur cette saison, après on peut toujours discuter, All Black...
En tout cas, il est au-dessus de Kevin Trapp qu'on a vu ce soir.
Pour moi, il est extraordinaire, je l'ai vu toute la saison avec Manchester United, il a été très sollicité. Mais pour moi, c'est un gardien, il est absolument énorme.
Bon, en tout cas, on peut imaginer que Lopetegui, ce match-là va... l'aider fortement à construire un 11 de
départ.
Il n'a pas
besoin de construire.
En tout cas, va lui donner beaucoup d'idées pour son 11 de départ.
Disons qu'en tout cas, ça vient conforter un travail qui avait partiellement été remis en cause par les échecs assez retentissants à la dernière Coupe du Monde et même à l'Euro où l'Espagne avait quand même quitté la compétition dès les quarts de finale. Ouais. Là, c'est...
Dès les huitièmes de finale.
Dès les huitièmes de finale. Donc là, ce sont des performances qui soutiennent un petit peu les ambitions espagnoles. L'Espagne a un bon tableau, elle peut voir venir au moins jusqu'au quart de finale et après, il aura quand même de bonnes perspectives.
Juste une petite chose, un bon tableau, mais quand même, dès le premier match, le Portugal, face à elle, dans un derby ibérique.
Il n'y a pas photo.
Qui est chaud. Oui, il n'y a pas photo, mais sur un match, en premier match, attention.
Je précise juste qu'à l'heure où on se parle, en termes de confiance, c'est pas exactement la même chose dans la péninsule ibérique, puisque le Portugal a pris 3-0 face aux Pays-Bas.
Absolument.
Hier, et l'Espagne vient donc mettre 6-1 à l'Argentine, donc la confiance, elle n'est pas exactement la même selon le camp dans lequel on se trouve. Parlons de l'Allemagne et du Brésil maintenant, messieurs. C'était l'autre grande affiche, très très attendue de ce soir. Et alors, le Brésil qui pense un petit peu ses plaies. Alors, on est loin d'effacer l'humiliation de 2014, le 7-1 encaissé en demi-finale face à ces mêmes Allemands à domicile. Mais le Brésil s'est tout de même imposé en Allemagne. Donc, il a joué quand même un mauvais tour à ces Allemands. Ce sera aussi bon pour le moral, ça. Victoire 1-0 à Berlin. But de la tête de Gabriel Jesus à la 38e minute. Et on a vu plutôt un bon Brésil.
Ah, j'ai cru que vous alliez dire un bon Kevin Trapp.
Alors Kevin Trapp, on peut le préciser, auteur d'une petite faute de main, le portier parisien, sur le but de Gabriel Jesus. Ouais. Le Brésil, au-delà de la victoire, une bonne performance. Patrick,
ouais,
c'est ça aussi qu'on peut comprendre.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il jouait quand même à Berlin, donc sur le terrain des champions du monde, c'est pas rien. Et ils ont quand même pris le match à leur compte. Ils ont dominé globalement. C'est eux qui ont eu le plus d'occasions nettes. Alors c'était un match qui n'était pas d'une intensité exceptionnelle. Hein. Ce qu'on a vu là sur Espagne-Argentine, c'était un petit cran au-dessus en termes d'intensité et d'engagement physique. Mais malgré tout, ils ont quand même bien.
C'était pas exactement dans le match amical où on joue plus
du côté brésilien qu'allemand.
C'était quand même bon. C'était pas. Je dirais que c'était pas d'un niveau d'intensité extraordinaire.
Il faut dire aussi que l'équipe d'Allemagne était largement remaniée par rapport à celle qui avait affronté l'Espagne.
J'ai l'impression que les Allemands ils voulaient pas.
C'est quand même inquiétant. Et moi, mes inquiétudes pour l'Allemagne quand je vois ce match, c'est toujours l'attaque. J'ai un peu l'impression que Gomez, qu'on a vu là ce soir, après on a vu un peu Werner, mais j'ai pas l'impression que ça soit du niveau de qu'avait Klose à l'époque.
Titulaire, évidemment. Non, oui. Il n'y avait pas Müller.
Tout ça, c'est pas au niveau d'un ce qu'avait Klose. C'est pas aussi clinique que ce que n'était Miroslav Klose.
Non, ce qui m'étonne, c'est que l'Allemagne s'efforce d'organiser une telle affiche pour mettre une équipe B pratiquement face au Brésil, alors qu'on sait que le Brésil a quand même une revanche à prendre et qu'ils vont venir. À quoi bon de faire ce genre de pari, quoi?
Nabil, si on suit vos collègues, on a un peu l'impression, et j'ai l'impression que vous êtes un peu sur cette ligne, que c'est compliqué de tirer des enseignements de ce match. Les Brésiliens, ils vont battre les champions du monde en titre chez eux. Ils prennent un petit peu une petite revanche par rapport à 2014, mais ils peuvent rien en faire. Il n'y a aucun enseignement à tirer de cette rencontre pour eux.
Non, du côté brésilien, on a vu les forces brésiliennes avec notamment. Un bloc plus puissant que par le passé, l'entrejeu est musclé avec Paulinho, Casemiro, Fernandinho.
Ah, ils sont solides à tous les niveaux.
Ouais, c'est pas des artistes. Hein. En revanche, devant, il y a quand même un garçon qui émerge de plus en plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Il joue au FC Barcelone. Oui. Il s'appelle pas Messi. Hein. Il s'appelle Coutinho. J'ai trouvé moi omniprésent notamment en première mi-temps. Pff, quel joueur de ballon. Hein. Franchement, il a un art d'esquive qui est c'est assez exceptionnel. Comment il joue pas avec le ballon, il joue avec son corps. Voilà, c'est moi j'adore ce genre de joueur. Ensuite, ce qu'ils n'avaient pas en 2014 avec Fred, ils l'ont avec Jésus Gabriel qui est pour le coup un vrai buteur. Et puis la force de percussion sur le côté droit de Willian qui fait une très belle saison.
Oui.
Voilà donc et tout ça c'est Neymar. Donc pour moi le Brésil c'est une équipe candidate au dernier carré. Comme l'Espagne et comme l'Allemagne, ces trois-là, je les mets dans le même panier.
Ah, l'Argentine perd son Messi, le Brésil va battre l'Allemagne en Allemagne sans Neymar. C'est quand même intéressant.
Il n'y a pas la même dépendance que heureusement pour le Brésil. Le Brésil peut gagner sans Neymar. L'Argentine sans Messi est quand même très 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 faible.
C'est bien dommage parce que l'Argentine aurait sans doute, si le sélectionneur utilisait tout le réservoir à sa disposition, les moyens de faire une bonne équipe sans Messi.
Non mais moi je suis désolé, mais je suis quand même effaré. Un joueur comme Dybala.
Ah oui.
Dybala, il est titulaire.
Vous voulez vraiment
Il est titulaire au Brésil. Il est titulaire en Allemagne. Il est titulaire en France. Il est titulaire partout. Il n'est même pas pris en équipe d'Argentine. Alors, il y a un problème personnel avec l'entraîneur. Il faut le dire.
Je pense qu'il faut faire une spéciale Dybala.
Je pense qu'on va faire une spéciale Argentine avec un chapitre entièrement consacré à Paulo Dybala. Vous aurez tout le temps d'en parler dans d'autres émissions, dans d'autres numéros de Radio Foot. Ne vous inquiétez pas. Nabil Djellit. Mais si je vous ai fait venir ce soir, c'est aussi pour parler de nos mondialistes africains. Oui. C'est quand même la moindre des choses. Alors, les premiers dont j'ai envie de vous parler, ce sont les Sénégalais, puisque ils ont de nouveau été l'auteur d'une performance moyenne, en tout cas en termes de résultats. Il y avait eu un match nul face à l'Ouzbékistan vendredi, c'était au Maroc, à Casablanca, si ma mémoire est bonne. Et là, au Havre, en France, le Sénégal a fait match nul face à la Bosnie, 0-0. Patrick, que faut-il penser de ce deuxième match nul de rang pour les Lions de Taranga?
Je vais résumer les choses très simplement. Le Sénégal perd rarement, mais le Sénégal joue rarement bien au ballon. Donc, on a vu encore lors de ces deux matchs. Ça a un côté solide, compact, mais Si on rapporte ça aux individualités dont le pays regorge, c'est un peu décevant. On en reste souvent sur notre faim quand on voit jouer le Sénégal. Et on se rappelle que pendant les éliminatoires, le Sénégal avait notamment décroché un succès important au Cap-Vert dans les dernières journées. Mais c'était à la 84e et 87e minute sur des coups de boutoir un peu individuels. Mais je sens pas dans cette équipe hein, une maîtrise exceptionnelle. C'est un peu poussif.
Alors, moi, alors je vais vous dire ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'ils sont encore aux expérimentations. Aliou Cissé tente un 3-5-2. Donc avec
il a refait ce qu'il a fait contre l'Ouzbékistan. Ouais,
il l'avait déjà fait vendredi hier, ça, de jouer en 3-5-2.
Je vous dis que moi
ça me choque pas. Ça il sert des matchs amicaux pour tenter des choses.
Ouais, mais
ce qui est inquiétant, c'est qu'il marque très peu, quel que soit le système, le schéma tactique.
Pourquoi vous le sentez pas le 3-5-2?
Parce que quand c'est un 3-5-2, déjà le profil des trois défenseurs centraux, ils se ressemblent au Sénégal. Ils sont grands, puissants et pas forcément hyper rapides. Ça c'est déjà une chose. Ensuite, dans le 3-5-2, les joueurs de côté sont hyper importants. Et c'est des joueurs qui doivent avoir l'habitude de jouer comme ça, c'est pas le cas. Sabali à Bordeaux, il joue à plat à 4. Armand Traoré, il est en Ligue 2, je crois, anglaise, si je dis pas
à
des
Cardiff,
bêtises.
Si je me trompe, ou Nottingham, ouais. Pardon.
Donc, moi, je suis pas fan du 3-5-2 pour des sélections comme ça. Voilà, enfin, je veux dire, c'est une tactique très rompue. Il faut avoir une éducation. Les joueurs italiens, ils ont, par exemple, dès leur jeune âge, ils ont la tradition et l'éducation du 3-5-2. Et là, à la fin non, des éliminatoires,
ça pourrait mieux convenir.
On passe à 3 derrière.
Mais ça pourrait mieux convenir à un joueur comme Adama Mbeng qui joue à Caen et qui a plus le profil pour jouer dans ce schéma-là. Bon, qu'il a, il revient de blessure. Mais moi, c'est pas ça qui me pose problème. C'est surtout que je reste toujours sur ma faim. Ça marque peu. Et c'est une équipe qui a beaucoup de mal à tuer les matchs. Il y a pas beaucoup de victoires écrasantes du Sénégal, même quand ils dominent leurs adversaires. Donc, je suis pas très très rassuré par cette équipe, quoi. Et la poule pourtant est à leur portée. Hein.
On rappelle Pologne,
Corée
Japon
du Sud. Colombie.
Pologne, Japon et Colombie.
Colombie, bon courage. Hein.
Pourquoi la Corée du Sud?
Et ça va rouvrir peut-être le débat. Et c'est le cas un petit peu au Sénégal de Dembaba. Qui rebrille du côté de la Turquie en sachant qu'aujourd'hui dans le contingent des attaquants sénégalais, il y a jamais eu un problème de talent au Sénégal. Vous avez aucun buteur à plus de 10 buts dans un championnat européen. Patrick
Il y aura bientôt Moussa Konaté, ouais. Mais il faut qu'il en mette encore un.
Ouais, il joue à Amiens.
Voilà.
Enfin, je veux pas manquer de respect à Amiens, mais Patrick parle du fait qu'il y a un déficit de buts.
Moussa Konaté qui a marqué contre l'Ouzbékistan
absolument.
Donc moi je plaide pour le retour de Dembaba.
Bon, eh ben écoutez, on verra si votre message est entendu.
On est là pour se mouiller, non ?
Par Aliou Cissé. De toute façon, là encore, on aura l'occasion d'en discuter.
La Colombie qui a fait 0-0 contre l'Australie.
Ouais, mais ils ont dû mettre l'équipe, c'est là. Les Colombiens ont fait le travail contre les Français.
Peut-être pas la même équipe qui a battu l'équipe de France.
Ouais, à mon avis,
ce vendredi au Stade de France, une autre déception. Parce qu'on disait beaucoup de bien de cette équipe, le Nigeria, les Super Eagles, qui se sont inclinés face à la Serbie. Le match avait lieu à Londres, défaite 2-0 des Super Eagles de Gernot Rohr, grâce à un doublé de Mitrovic au 68e et 81e minute. Vous disiez beaucoup de bien hors antenne tout à l'heure, parce qu'on a discuté un petit peu, Patrick Juillard, des Super Eagles du Nigeria. Est-ce que ça vous surprend, ce revers 2-0 face à la Serbie?
Relativement, mais attention, la Serbie, quand même, j'ai vu le match contre le Maroc. J'ai pas vu ce match Nigeria-Serbie.
Mais on rappelle
que
la Serbie avait été battue par le Maroc vendredi.
J'ai vu par contre Maroc-Serbie, donc qui jouait vendredi dernier, et la Serbie avait largement dominé la deuxième mi-temps, avait vraiment pilonné le but de Mounir qui avait sauvé plusieurs fois son camp. Donc
c'est une équipe de peintres,
la Serbie, attention. Donc selon la réussite, selon un petit peu peut-être comment le Gernot Rohr a fait tourner l'effectif, il faut peut-être pas tirer tant de conclusions de ce match, à voir un petit peu comment Gernot Rohr va arriver à orchestrer les talents offensifs dont il dispose, avec Iwobi, Anacho et tous les jeunes joueurs dont il dispose. Pour moi,
ça remet pas en cause le projet de Gernot Rohr. Je rappelle simplement que le Nigeria avait battu la Pologne vendredi en Pologne, grosse performance, 1-0. En novembre, ils avaient battu l'Argentine sans Messi, mais 4-2, pas mal non plus. Est-ce que c'est peut-être un peu capillotracté de prendre les choses comme ça, Nabil, mais est-ce que c'est pas parfois un mal pour un bien de pas enchaîner trop de bonnes performances et peut-être d'avoir une défaite qui remet les choses à plat, qui pousse à ne pas s'en s'enflammer.
Non, mais après, ce qui est important, c'est
quelques semaines de la Coupe du Monde.
Après, ce qui est important, c'est aussi le contenu de ce match et les complémentarités qu'a peut-être essayé de travailler Guernotreur. Il a apporté des variables. Après, il reste quand même sur des matchs face à des vraies bonnes équipes, même si c'est l'Argentine sans Messi. Aller gagner en Pologne, c'est pas donné à tout le monde. Après, la Serbie, c'est aussi une équipe qui peut être un bon outsider de la Coupe du Monde. Et ils peuvent très bien les recroiser en Coupe du Monde, les battre ou faire match nul. Après, il y a le résultat technique. C'est une chose. Et après, il y a le contenu, c'en est un autre. Bon, pour l'instant, on va dire que le Nigeria est une équipe qui est cliente à une qualification en huitième de finale de la Coupe du Monde. Et on n'a pas l'impression que leur campagne, pour l'instant, est folklorique. Je m'attends pas à un parcours comme le Cameroun en 2014, quoi, si vous voyez ce que je veux dire.
On leur souhaite pas.
Bon, le Nigeria, le Sénégal. On va parler de qui maintenant? Si on parlait
de la Tunisie.
La Tunisie qui a été pas mal.
On parle exactement de la Tunisie. La Tunisie qui a battu le Costa Rica. Ça s'est passé en France.
À Nice.
À Nice, moi. Une ville que vous connaissez bien. Voilà. Chez vous. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est Wahbi Khazri, l'inévitable Wahbi Khazri qui a fait la différence. Je cherche la minute de son but, la 36e minute a priori. Encore une fois. Un but qui ressemble un petit peu à celui qu'il avait inscrit. C'était pas lui qui avait marqué contre l'Iran.
Non, mais il avait
tout fait. Mais il avait participé au but de la victoire face à l'Iran vendredi. Là, pareil, c'est lui qui est à l'origine. C'est même lui qui marque. Mais il a de la réussite, mais il fait aussi montre de son talent technique individuel sur cette action.
Ce qui est intéressant avec Wahbi Khazri, c'est que c'est un joueur polyvalent qui peut jouer à plusieurs postes. Et il y a une abondance de milieux offensifs de qualité dans cette équipe de Tunisie. Et donc Nabil Mahloul a décidé d'en faire un faux neuf, un peu comme à l'époque David Villa en sélection espagnole, un attaquant volant un petit peu qui évolue sur le front de l'attaque. Et il s'en sort très bien. Il jouait déjà comme ça à Rennes, avec d'ailleurs un entraîneur franco-tunisien, donc Sabri Lamouchi. Et je pense que les deux coachs se sont parlé. Pour l'instant, ça fonctionne pas mal. En espérant pour la Tunisie que les autres équipes ne soient pas trop prévenues et qu'ils puissent encore jouer sur un effet de surprise, parce que ce joueur qui a plus un profil de meneur de jeu qui joue en pointe, comme ça peut déboussoler une défense.
C'est dommage, il aurait pu jouer avec Wissam Ben Yedder en pointe, mais il a préféré jouer en équipe de France. Mais je pense
mais ça, Nabil, ça fait des années qu'il refuse la Tunisie. Donc faut pas remettre ça sur le tapis.
Simplement, je voulais donner la parole à Alejandro, le Costa Rica, quart de finaliste du dernier mondial. C'est pas n'importe qui.
C'est pas n'importe qui. C'est une victoire intéressante. Le Costa Rica s'est quand même qualifié assez facilement dans la zone CONCACAF. C'est une équipe qui est devenue qui a une présence tout à fait régulière en Coupe du Monde, qui fait partie des très bonnes équipes de la zone CONCACAF. Donc elle est largement au-dessus des autres nations centra-américaines en particulier. Donc c'est une bonne performance, oui, sans aucun doute. Même si la performance réussie par le Costa Rica en 2014 risque de ne pas se renouveler cette année.
Le Costa Rica qui sera dans la même poule que le Brésil et la Serbie, en compagnie de la Suisse, le Brésil et la Serbie, deux équipes dont on parlait un peu plus tôt.
Ils peuvent espérer le deuxième tour.
Pourquoi pas, ils ont de la réussite, ils ont de l'expérience, parce que Alejandro, il dit que c'est une équipe qui est maintenant régulière à ce niveau-là. Faut surtout pas les
prendre. Mais c'est un gros relevé, quand même.
Un dernier petit mot sur la Tunisie, qui a incorporé
quatre binationaux
pour ces matchs de mars. Deux matchs, deux victoires, et on en parlait hier, on disait que ça simplifie l'intégration quand même des petits nouveaux quand il y a des victoires, c'est toujours plus simple la vie de vestiaire quand il y a des victoires, donc est-ce que ça va simplifier l'intégration de ces binationaux-là?
Bon, c'est à dose homéopathique, en même temps c'est quatre joueurs, alors c'est pas comme l'Algérie en 2010, donc citons-les, Skiri de Montpellier qui a marqué des points déjà apparemment, c'est un joueur extrêmement intéressant de 22 ans.
Milieu défensif.
Khawi Saifedine qui a un peu suppléé l'absence de Demsakni en numéro 10 ce soir face au Costa Rica, qui peut évoluer à plusieurs postes.
Comme milieu offensif, droite ou axial.
Voilà. Ensuite, on a Ben Alouane.
Ben Alouane, en fait, ouais. Il pallie un petit peu la défaillance durable de Abdennour, dont les performances sont en chute libre et qui était un incontournable et qui ne sera certainement, sauf revirement, qui sera pas dans les 23. Et il est sur le match, moi je l'ai vu jouer contre l'Iran, j'ai pas vu le match ce soir, mais j'ai vu contre l'Iran, il a plutôt bien tenu la baraque et fait des bonnes relances, il a fait un bon match globalement, donc je pense qu'il a gagné sa place.
Et après, ils ont pris Moisassen qui va être en deuxième gardien, qui joue à Châteauroux, que Patrick connaît bien.
Formé à l'OGC Nice.
Qui a été formé à l'OGC Nice.
Et qui était titulaire tout à l'heure face au Costa Rica.
Il n'y a pas un chamboulement extraordinaire, et tant que vous ne piquez pas, excusez-moi, la place des stars, ça va.
La victoire du Maroc face à l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan qui avait déposé des problèmes vendredi au Sénégal.
Qui avait longtemps mené.
Qui a tenu en échec le Sénégal un partout. Et là, le Maroc s'est déroulé au Maroc, il me semble, à Casablanca, s'est imposé donc 2-0 face à l'Ouzbékistan avec, et ça c'est quand même intéressant, un but d'Ayoub El Kaabi, meilleur buteur dernier Chan, meilleur buteur de l'histoire du Chan avec 9 réalisations et qui là marque des points. Il débute chez les Lions de l'Atlas, enfin en tout cas il fait ses premiers pas chez les Lions de l'Atlas et il marque assez rapidement. Ça, c'est intéressant, c'est la belle histoire.
Ouais, c'est la belle histoire, mais il va falloir éteindre son portable parce qu'à mon avis, il va y avoir tous les agents de la planète qui vont vouloir le placer.
Juste une précision, c'était pas sa première sélection.
Ouais, c'est sa deuxième. Il était rentré à la fin du match et là il marque très rapidement. Alors moi je le surnomme avec Patrick le Slimani du Maroc parce que c'est un attaquant du championnat local qui émerge comme ça. Enfin, c'est des éclosions tardives en fait, c'est-à-dire que c'est des gars de 24-25 ans qui subitement sont très efficaces, hein. On le connaissait pas il y a 4 ou 5 ans, vous avez eu des papiers sur lui, il était menuisier. C'est pour vous dire, non mais
c'est vraiment la belle histoire.
Non mais c'est assez
et Hervé Renard avait fait tourner beaucoup son effectif par rapport au match contre la Serbie, il était associé à l'attaque à Bamou, le jeune attaquant.
Ouais, alors Bamou, je suis moins fan, hein. C'est pour être franc.
Et donc
vous,
c'est d'autant plus intéressant, c'est-à-dire que vous changez des joueurs et vous signez une nouvelle victoire. Alors l'Ouzbékistan, c'est pas la meilleure nation mondiale.
C'est 60, je crois, entre 70 et 80e FIFA,
c'est pas une équipe nulle,
si loin de se qualifier.
Mais en tout cas, la Serbie était un adversaire crédible, l'Ouzbékistan, en tout cas, on peut aussi penser que c'est un adversaire crédible. En tout cas, il a posé des problèmes au Sénégal. Donc là, on est vraiment sur une séquence extrêmement réussie pour le Maroc. Si on la couple aussi avec le Chan remporté et avec la victoire à Abidjan, ça fait quand même une séquence très très impressionnante.
Le Maroc continue d'encaisser très peu de buts parce que c'était, je crois, sur tous les continents confondus,
ils n'avaient pas pris de buts dans les éliminatoires.
Et là encore, ils continuent à être hyper hermétiques. J'ai regardé, je le répète, le match contre la Serbie. La deuxième mi-temps, ils sont quand même, ils subissent beaucoup, mais ils prennent pas de buts. C'est une équipe très solide qui arrive à subir sans se désunir et sans s'affoler. Et c'est très intéressant. Quand on va jouer l'Iran d'abord, le Portugal et l'Espagne, c'est une sorte de crescendo dans la qualité des équipes qui vont affronter.
Mais je crois que c'est le Portugal le troisième match, non ?
Non, c'est d'abord c'est l'Espagne le troisième match.
Ah, c'est dommage. Mais le Maroc, il faut qu'il s'offre une finale sur le troisième match. Elle ressemble un peu à l'équipe d'Algérie 2014. C'est assez solide.
Avec une défense en plus et un esprit peut-être qui peut leur permettre de disputer une finale de groupe.
La chance du Maroc, c'est vrai d'arriver au troisième match avec l'Espagne déjà assurée de se qualifier et faire sans tourner son effectif.
Mais ça jouera, disons-le franchement, normalement.
Au deuxième match contre le Portugal.
Ça va jouer contre le Portugal de Cristiano Ronaldo.
S'ils font le nécessaire contre l'Iran au début. Voilà.
Alors j'ai oublié de rappeler le groupe de la Tunisie juste avant. Pour Belgique, Angleterre, Panama, ce sera pas simple pour les Aigles de Carthage. Alors là, très rapidement, parce que l'émission touche à sa fin, la deuxième défaite en deux rencontres de l'Égypte. Là, c'est pas face au Portugal, parce que encore s'incliner face au Portugal, Cristiano Ronaldo dans le temps additionnel, ça c'était vendredi. Ça peut s'expliquer, mais là, et ça s'est toujours passé en Suisse d'ailleurs, les Pharaons, pardon, ont été battus par la Grèce 1-0. La Grèce, c'est pas le Portugal.
Non, alors c'est quand même
trop. Là, il faut pas...
là aussi, c'était un
c'est
petit
dire
peu...
si elle était diminuée cette c'est... équipe.
C'était un peu l'équipe B puisque Mohamed Salah, Mahmoud Hassan Trezeguet, Ahmed Hassan Coca et d'autres joueurs n'étaient pas titularisés, n'ont pas joué.
Et donc, j'ai un peu envie de vous dire que quand il y a pas Salah, ça se voit.
Voilà, c'est un peu compliqué. La mauvaise nouvelle pour l'Égypte, c'est que l'équipe a perdu Omar Gaber sur blessure. Il est sorti sur civière après le retour des vestiaires. Et ça, c'est une grosse perte. Parce que c'est un joueur qui peut jouer un peu dans les deux postes du couloir droit. Voilà, c'est pas très encourageant pour l'Égypte parce que c'est une équipe qui a besoin de... Pratiquement pour gagner un match, elle a besoin de ne pas encaisser de but parce qu'elle marque rarement plus d'un but par match. Contre les grosses équipes, en tout cas, donc c'est quand même compliqué.
Ouais, mais elle est pas dans la poule du siècle non plus, puisque sa tête de série, même si elle organise.
Mais il y a l'arbitrage, n'oublions pas.
C'est la Russie. Bon, l'Égypte a le droit d'y croire.
La poule de l'Égypte, elle sera composée du pays hôte. Vous en parliez. La Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay seront également présents. Merci Nabil Djellit. Merci Patrick Juillard. Merci Alejandro Valente. Demain, Radio Foot à Dakar avec Annie Gasnier, et ce jusqu'à vendredi. Ciao. Bonne soirée sur RFI.